Voilà trois dimanches, frères et sœurs, donc nous écoutons les paroles de Jésus qui envoie ses apôtres en mission. Ça peut paraître long, redondant, nous arrivons à la fin. C'est vraiment la toute fin du discours missionnaire de Jésus aujourd'hui. Et nous avons besoin de comprendre ce que Jésus veut nous dire. Est-ce qu'il parle à ses disciples qu'il envoie en mission? Est-ce qu'il parle à ceux qui l'accueillent? Il est évident qu'aujourd'hui il parle aux deux. On sent bien que l'évangile est partagé en deux parties. D'abord une adresse aux disciples, puis au moment où Jésus parle de l'accueil, qui vous accueille, m'accueille, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, et la suite, une adresse à ceux vers qui Jésus envoie ses disciples. Derrière cela, qu'est-ce qui se cache? Il se cache notre capacité à vivre avec le Christ. Avez-vous remarqué que dans la deuxième lecture, un passage de la lettre de saint Paul aux Romains, où saint Paul donne peut-être les paroles les plus fortes de tout son enseignement sur le baptême. L'expression qui revient comme en boucle, c'est être avec le Christ, vivre avec le Christ, mourir avec le Christ, ressusciter avec le Christ, être mis au tombeau avec le Christ pour en sortir avec lui. Ça, c'est la vie chrétienne. Vivre en chrétien, vivre de son baptême, c'est vivre avec le Christ, au jour le jour. Et alors, du coup, Jésus va un peu dire à ses disciples, à ceux à qui il s'adresse, qu'est-ce que ça veut dire, vivre avec le Christ, vivre avec moi? À vous que j'envoie en mission, dit Jésus. Être avec moi, c'est ne rien mettre en concurrence dans votre amour pour moi. Alors, ces paroles, elles peuvent paraître dures. Hein. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Quand on entend ça, on se dit qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Est-ce qu'il faut vraiment rejeter tout par amour du Christ? Jésus veut dire il n'y a pas de concurrence entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, on pourrait dire, et de ceux qui nous sont le plus proches, et particulièrement au sein de la famille. Pas de concurrence, ça veut dire non pas il y en a un qui est supérieur à l'autre et du coup il faut dégager tout le reste. Pas de concurrence, ça veut dire on n'est pas tout à fait au même niveau. Aimer Dieu, c'est d'un amour total. Et c'est dans cet amour-là qu'on s'aimera les uns les autres davantage. Et si l'amour des biens terrestres, ou même l'amour au sein de la famille, l'amour des personnes, s'il est mis en concurrence avec l'amour de Dieu, eh bien on ne peut plus comprendre. Je me souviens d'un beau film sur la conversion, une conversion très simple d'un homme, et de l'expression de... C'est un film qui est construit sur une histoire vraie, et de l'expression de sa femme qui disait « Mais j'ai l'impression que Dieu m'a volé mon mari ». Parce que, justement, elle sentait que son mari se tournait vers Dieu d'une manière... Puis elle comprend bien, finalement, que c'est pas ça. C'est pas du même ordre. Son mari n'aimera pas moins parce qu'il se rapproche de Dieu. Au contraire. Voilà, donc, l'amour de Dieu ne peut pas rentrer en concurrence avec quoi que ce soit. Et dans l'amour de Dieu, nous aimerons davantage et mieux sur cette terre. Mais bien sûr, pour les disciples, ça veut dire aussi l'amour de Dieu doit être total. Si je vous ai appelé, dit Jésus à ses apôtres, c'est pour que vous ne préfériez rien au service de Dieu. Il me semble, par exemple, que un des enracinements du célibat sacerdotal ou de la consécration de soi dans la virginité consacrée s'enracine là. On peut bien contester aujourd'hui un choix de l'Église qu'on prétend remonter juste au Moyen-Âge, etc. Il faut creuser un peu plus l'histoire, ça vaudrait le coup. Il faut les regarder dans l'Évangile. Pourquoi Jésus appelle-t-il ses apôtres à quelque chose de radical? Pourquoi leur dit-il « Il faut me préférer, il faut m'aimer davantage que père et mère, fils ou fille, on pourrait ajouter femme aussi ?» Parce que ce choix-là, et le choix d'une radicalité qui parle de Dieu lui-même. Quelque chose de fondamental, parce que C'est finalement, si je veux témoigner de l'amour de Dieu, alors je dois dans toute ma vie refléter la puissance de cet amour de Dieu. Contrairement à ce qu'on pense, je fais un petit excursus, le célibat sacerdotal, ce n'est pas du tout fondé sur une affaire morale ou quoi que ce soit, sur une espèce de jugement d'une vie qui serait supérieure à une autre, comme si la vie consacrée serait supérieure à la vie matrimoniale. Ce n'est pas du tout ça. Ça appartient à l'Ancien Testament. Allez relire un peu ce qui était demandé comme précepte aux Lévites, aux membres de la tribu de Lévi, vous verrez, ça c'est la théologie de l'Ancien Testament. Ce n'est pas du tout là-dedans que l'Église se situe aujourd'hui. Le Christ a renouvelé toute chose. La consécration totale de soi dans le célibat, c'est justement l'aveu que Dieu est aimé de manière absolument totale. J'ai envie de mettre en parallèle le célibat sacerdotal avec la polygamie. Ça peut paraître bizarre. Qui aujourd'hui refuserait de comprendre que la polygamie est une blessure à l'amour matrimonial? Que quand on se marie, justement, on exclut cette dimension de la polygamie pour être tout à l'autre. On le comprend bien, ça. Eh bien, le célibat sacerdotal, on pourrait dire, c'est la même chose. Celui qui se donne à Dieu, il se donne totalement. Totalement. Et il est prêt à renoncer à tout pour Dieu. Voilà. Je pense qu'il y a dans l'évangile d'aujourd'hui quelque chose qui est de cet enracinement-là. Une préférence totale pour Dieu qui, elle-même, devient un témoignage. Témoignage de la grandeur de Dieu. Et puis, bien sûr, il y a cette dimension du renoncement, parce que tout choix va avec une part de renoncement. Quand on renonce, on essaie de choisir un bien qu'on voit plus grand pour l'objectif suivi. Mais ce renoncement, quand Jésus dit « Si vous ne renoncez pas, vous n'êtes pas digne de moi », qu'est-ce qu'il nous évoque? Il ne nous évoque pas juste la difficulté de renoncer. Ça ne suffirait pas. Ce serait un peu masochiste. Il nous évoque le renoncement du Christ lui-même. Quand on parle de renoncement dans notre vie de chrétien, dans notre vie de baptisé, le modèle du renoncement, c'est le Christ. C'est toujours à lui qu'il faut se raccrocher. C'est toujours lui qui est la clé de compréhension des choses. Pourquoi? Parce que le Christ a renoncé à sa gloire divine pour s'abaisser, c'est saint Paul qui dit ça, hein, s'humilier en se faisant homme et s'humilier jusqu'à passer par la mort. Le Christ a renoncé à sa gloire divine pour se plonger dans notre péché, l'endosser, et comme le dit saint Paul, mourir une fois pour toutes au péché, et tuer le péché, et nous entraîner à sa suite. Et donc, tout renoncement, en fait, n'est que la conséquence du plus grand renoncement, qui est le renoncement de Dieu lui-même, à ce qu'il est pour se faire l'un d'entre nous, et ainsi nous sauver. Ça vaut le coup d'être suivi quand même. Hein. Quand Jésus dit « Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre », c'est ça que ça veut dire en fait. C'est de coller au renoncement du Christ. On ne rattrapera jamais d'ailleurs. Charles de Foucault dit qu'il a été très touché par une phrase d'une homélie de son père spirituel, celui qui deviendra son père spirituel, l'abbé Huvelin, qui était prêtre à la paroisse Saint-Augustin à Paris, et qui un jour, au détour d'une homélie, a lancé une phrase comme ça, qui a marqué pour sa vie Charles de Foucault, alors qu'il n'était pas encore tout à fait converti, il était sur ce chemin-là. L'abbé Huvelin a dit « Le Christ a tellement choisi la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Et Charles de Foucault a dit « Ça, c'est la vie chrétienne, ça. C'est regarder à quel point Jésus a pris la dernière place et suivre ce chemin. » Voilà, donc celui qui est envoyé par le Christ, il est envoyé à la suite du Christ sur ce chemin. Et puis après, Jésus dit « Qui vous accueille, m'accueille, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Et donc là, Jésus s'adresse à ceux vers qui il envoie ses disciples. Alors on a entendu la très belle évocation de l'accueil d'Élisée dans la première lecture. C'est beau d'ailleurs, parce que on dit, voilà, cet homme est un prophète, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accueillir bien dans notre maison? Alors, on va lui faire une chambre, on va lui faire un lieu de prière, on va faire en sorte qu'il soit bien chez nous, comme s'il était chez lui. Et la récompense de ça, c'est pas juste « Ah, bravo, vous avez bien fait », c'est Élisée qui dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme ?»« Ah ben, prions Dieu pour qu'elle ait un enfant. » Voilà, la récompense. Mais ce que Jésus veut nous dire aussi dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que finalement, il y a plein de manières de l'accueillir, lui, qui vous accueille, m'accueille. Ce qui importe, c'est d'accueillir le Christ. Et quelles sont ces manières d'accueillir le Christ? Eh bien, quand Jésus dit qu'il accueille un prophète en sa qualité de prophète, un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense de prophète, une récompense d'homme juste. Il me semble que ça veut dire qu'il m'accueille dans l'Église. Qu'est-ce qui nous porte le Christ en premier lieu? C'est l'Église. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens? C'est cet héritage de l'Église. C'est parce que depuis 2000 ans, il y a cette transmission au sein de l'Église qui fait qu'aujourd'hui on hérite et on transmettra à notre tour. Et on est dans, on la devine cette chaîne d'ailleurs dans l'Évangile. Qui vous accueille, m'accueille, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. On sent bien que tout ça, ça se tient. Et l'Église, c'est cette chaîne qui, depuis le Christ, vient jusqu'à nous et dont nous sommes nous aussi un maillon pour l'avenir. C'est ça l'Église en fait. C'est pas autre chose. Une très belle définition de l'Église, d'un théologien, c'est l'Église, c'est Jésus continué. Jésus continué jusqu'à nous. C'est pas Jésus relégué dans le passé, c'est Jésus continué, prolongé. Voilà donc l'Église qui nous met dans la rencontre, dans la communion avec le Christ. Accueillir le Christ, c'est l'accueillir dans sa parole, bien sûr. L'évangile, chaque messe, c'est Jésus qui nous parle. C'est pour ça qu'on se met debout, c'est pour ça qu'on acclame, c'est pour ça qu'on chante l'Alléluia, c'est pour ça qu'on est heureux. C'est Jésus lui-même qui nous parle et qui nous touche le cœur. Accueillir le Christ en écoutant sa parole, c'est se laisser transformer par lui, en accueillant sa parole. Accueillir le Christ, enfin, c'est l'accueillir dans le sacrement de l'Eucharistie, dans les sacrements, accueillir sa grâce, mais dans le grand sacrement de l'Eucharistie, sommet de la vie sacramentelle. Jésus est là, qui se donne à nous en nourriture. J'accueille le Christ. Enfin, accueillir le Christ, c'est bien sûr aussi, et on sent ça dans l'Évangile, l'accueillir à travers son frère ou sa sœur. Jésus vient à nous à travers le frère, à travers l'autre, sur mon chemin. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Ne jamais manquer cette rencontre avec Jésus dans celui que Jésus a mis sur mon chemin, parce que par lui, Jésus vient à moi. La dimension de la charité fraternelle, c'est ça. La grandeur de la charité fraternelle, c'est ça. Pour le Christ. Je reconnais le Christ en celui qui est là à côté de moi. Et cet accueil du Christ, l'Église, la parole de Dieu, le sacrement de l'Eucharistie, le frère. Ce n'est pas exhaustif, hein, mais ça donne quand même une bonne ligne de conduite. Cet accueil du Christ, eh bien, c'est, semble dire Jésus, la condition du salut. Quand Jésus parle de récompense, on comprend bien que ce n'est pas une récompense comme un bon point, quoi. C'est être avec Dieu au ciel. C'est l'éternité. Alors on peut se dire, c'est très dur, hein, Jésus quand même aujourd'hui nous secoue un peu. Et alors il a cette dernière phrase étonnante. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple ne perdra pas sa récompense. Et si on peut penser que les choses sont si dures que ça à faire à la suite du Christ, ben, en fait on découvre que juste un verre d'eau offert, ça peut être le moyen d'être sauvé, de gagner le ciel. On ne fait pas pour ça, hein. Mais du coup, Jésus semble dire, en fait, c'est tellement simple. Ça doit être tellement quotidien dans votre vie, cette dimension de l'accueil. Mais l'accueil du Christ. Et pas un accueil rêvé, un accueil pratique, concret. L'accueil du Christ. Amen.